Je vais essayer de faire bref pour qu'on puisse avoir la place au débat, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je compte sur toi, Hélène, pour me soutenir et intervenir sur cette troisième partie. On a vu en première partie à la fois du concret, de l'innovation sur un territoire autour de l'énergie et du climat. Et dans la deuxième partie, on a vu un certain nombre de réflexions sur les conditions, locales de la structuration de l'innovation sur un territoire. Il nous a semblé utile rapidement, quitte à être un peu caricatural, je vous prie de m'en excuser, de redonner aussi une vision dynamique et mise en perspective de la dimension énergie, climat et de ce qui se passe sur les territoires avec les dimensions plus larges sur le plan des territoires à la fois européens et mondiaux et d'autre part dans l'espace temporel. Donc dans cette partie-là, on a conçu trois temps rapides, je l'ai dit très, très rapides, puisqu'il y a déjà eu des exposés au cours du séminaire d'IEDAT sur ces questions-là. C'est se rappeler que les questions que l'on développe au niveau des territoires, elles s'inscrivent bien dans des dimensions temporelles et spatiales extrêmement importantes qu'il faut avoir en place et qu'il y a une certaine cohérence. On verra si le débat fait apparaître des éléments de cohérence ou d'incohérence dans la dynamique territoriale versus ces dimensions-là. À la fois dans le temps, puisque les enjeux énergétiques, par nature, ce sont des enjeux de long terme, et on se trouve à une période charnière. Hier, Jacques avait montré un scénario, on ne s'était pas concerté avec Jacques, mais je vais reparler d'un autre scénario, qui est un scénario médian, et qui a quelques éléments d'inquiétude, et qui ont fondé un certain nombre d'orientations politiques, et c'est notamment notre point 2. Comment l'Europe, face à ces enjeux-là, est en train de se positionner ? Avec les grands équilibres politiques que vous connaissez entre les nations, les territoires, les nations, l'Europe et les autres partenaires mondiaux. Et troisième dimension, troisième partie, c'est, et ça a été évoqué par l'exposé repris par Serge de Christelle, sur un exemple concret de développement autour des smart grids. D'ailleurs, dans la première partie présentée par Luc, un certain nombre d'opérations industrielles et d'innovations étaient liées à cette question d'intelligence sur les réseaux électriques, qui est une partie des sujets, mais qui a l'intérêt, en tout cas, de montrer qu'on va passer de structures très centralisées à des problématiques beaucoup plus locales, et qui croisent différents éléments de technologie et de jeu d'acteurs. C'était ça les points que nous voulions mettre en exergue. Alors, je vais faire vite sur les premières parties, puisque vous les connaissez. Donc, sur l'énergie, enjeux complexes, croisement futur et le présent. Le présent, c'est ce qu'on développe aujourd'hui sur les territoires, mais on va voir que c'est quand même tout ça s'inscrit dans une dynamique temporelle très importante. Et puis l'espace, les territoires, partie de la planète, mais avec des enjeux techniques que connaissent les énergéticiens, mais surtout des enjeux politiques. Pour tous ceux qui sont autour de cette table, il y a des enjeux géopolitiques, voire géopolitiques, que je voudrais illustrer très rapidement. Alors sur la courbe que j'ai mise ici, je crois qu'il y a trois points. Elle montre quoi ? C'est la consommation, la production d'énergie, on va dire, c'est la structure de la production d'énergie prévisionnelle pour couvrir la consommation mondiale sur la période du siècle à venir. C'est un scénario médian. Ce n'est pas obligatoirement les scénarios les plus noirs, mais c'est un scénario qui est considéré comme médian, sur lequel je ferai trois observations. La première, c'est que vous voyez le plateau de ce qu'on appelle le peak oil. Je ne reviens pas en détail sur cette zone-là. Vous voyez bien son incertitude. On voit qu'il tourne autour des années 2030, 2050, 2060. C'est le développement et finalement la limitation de la production de charbon qui est une des alternatives auxquelles pensent tous les énergéticiens et tous les politiques, mais dont on voit qu'il a ses limites, sous réserve de développer d'autres technologies, mais qui aujourd'hui ne sont pas matures. Et puis, vous voyez un développement des renouvelables assez conséquent, en croissance forte. Ça, c'est l'actualité que nous vivons sur les territoires et en Europe. Et avec une zone d'incertitude vue aujourd'hui par tous les spécialistes sur la deuxième partie du siècle. Sachant qu'on a pris en compte dans ce schéma-là des hypothèses sur les progrès technologiques vraisemblables, mais évidemment on n'a pas pris en compte des ruptures qu'on ignore encore. Et vous voyez que les échéances sont quand même assez rapprochées. La deuxième dimension qui maintenant est devenue absolument indispensable quand on parle d'énergie, c'est le couplage énergie-climat. Je ne vous fais pas de dessin, les émissions carbone et l'actualité d'aujourd'hui font que je ne vais pas insister sur ce scénario où on voit que la croissance est très forte, reste très forte, et que vous voyez qu'on a dépassé déjà des limites, et que tous les débats de rattrapage, de retour sur des émissions des années 90, 2000, selon les pays, font qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on peut s'interroger sur déjà le mécanisme de retard dans lequel nous sommes enquistés. Bon, alors, je dirais, c'est ni un scénario noir, mais c'est un scénario d'alerte. Deuxième dimension, ça c'était l'aspect temporel, donc tout ce qu'on développe aujourd'hui s'inscrit bien dans la préparation et, je dirais, dans la capacité qu'on aura à effectivement faire face à ces deux trajectoires que j'ai évoquées tant en termes d'énergie que de climat. La deuxième, qu'il ne faut pas négliger, surtout pour l'Europe, c'est la question spatiale. La question spatiale, ici, on a représenté la somme des réserves et des ressources fossiles, exprimées en téra-dollars, hein, valorisées au coût actuel en termes, vous voyez que les coûts sont quand même raisonnables, puisqu'on est à 20 dollars du baril de pétrole, et dans les réserves, on suppose quand même un saut qui est de 100 dollars, c'est-à-dire les conditions d'extraction de ces réserves. Bon, il n'empêche qu'on voit tout de suite la symétrie entre un certain nombre de zones géographiques de la planète et l'Europe. Alors vous voyez que la Chine et l'Amérique du Sud aujourd'hui sont dans des positions relativement limitées en termes de ressources aussi. Alors sur ce dessin, je vais l'expliquer, et là c'est aussi très, très caricatural et très rapide, hein, puisque c'est en soi, il y a des thèses sur des questions de ce type-là, bien évidemment. On a représenté ici, en fait, les réserves fossiles, telles qu'on les voit, telles qu'elles sont aujourd'hui, sur les grands pays que sont le Moyen-Orient, hein, MO en rouge, en orange, tout l'ensemble Russie et République de l'ex-Union soviétique, où on voit qu'on est fortement en capacité d'exportation, et on voit les États-Unis légèrement importateurs, la Chine et l'Inde importatrices également, et l'Union européenne, vous vous souvenez de notre séminaire à Bruxelles avec les 50% de dépendance énergétique aujourd'hui. Les analyses qui sont faites aujourd'hui sur la perspective à mi-siècle, c'est-à-dire 2050, c'est-à-dire dans 40 ans, ce qui n'est pas très loin, c'est effectivement un léger effritement de la partie ex-russe étendue CIS, on va dire, et Moyen-Orient, tout en gardant des réserves assez conséquentes. Les USA qui bougent légèrement, mais dont les réserves se tarissent légèrement, là aussi. Et puis une croissance très forte de la consommation de la Chine et de l'Inde, avec une importation qui devient croissante. Et dans ce mouvement général, ce qu'il faut bien regarder, c'est que l'Union européenne, elle ne progresse pas dans ses ressources. Au contraire, elle devient de plus en plus importatrice. C'est l'affaire des 70% qui avait été évoquée, là aussi, au séminaire de Bruxelles. Alors, tout ça, pourquoi ce petit éclairage que l'on voulait faire, c'est que derrière, et on va le voir, ça fonde pour partie un certain nombre d'orientations politiques européennes, c'est qu'on a un potentiel de tension géopolitique autour de cette question qui est patente. Si j'avais eu le temps, je vous aurais apporté les cartes que nous avons, par exemple, sur la répartition des ressources pétro-gazières dans tout l'ensemble du continent européen, ainsi que sur la partie Moyen-Orient jusqu'à l'Afghanistan. Ce sont des cartes qui parlent d'elles-mêmes aujourd'hui sur les tensions potentielles. Potentielles ou actives, comme vous le savez. Alors, tout ce petit détour, tout simplement pour dire quoi, l'Europe et l'énergie, comment ça fonctionne, et notamment la dimension entre territoire et les mailles nationales ou européennes. À l'origine, sur la question énergétique, on était essentiellement dans une approche, je dirais, coopérative. Là aussi, je suis caricatural, je vais vite avec les traités européens, on est autour de la CECA, d'Euratome, donc une approche, je dirais, qui avait déjà identifié que l'énergie était un problème, et qu'il y avait une dynamique à avoir au niveau des pays européens autour de ces dimensions-là, que ce soit pour le charbon et pour l'atome. Alors en fait, aujourd'hui, quelle est la situation? Tout au moins jusque dans les années 90-2000, quelle est la situation? On a eu des politiques, j'ai appelé ça des compétences sur l'énergie non partagées, voire écartelées. Pourquoi? Puisque l'énergie n'est pas une compétence propre de l'Union, on pourra débattre de l'intérêt, oui ou non, de l'avoir. On a des stratégies nationales qui sont développées depuis longtemps. Et à l'évidence, si on compare, j'ai donné un exemple ici, entre le Royaume-Uni, qui disposait de ressources charbonnières extrêmement importantes, certes coûteuses, et de ressources pétro-gazières dans mer du Nord extrêmement importantes, qui commencent d'ailleurs à se tarir, et la France, qui, elle, était déjà, dès le début, dans une situation de dépendance énergétique, c'est évident qu'il y a des stratégies très différentes. On pourrait citer l'Italie, qui a développé des relations très particulières dans le bassin méditerranéen et avec la Russie. La Commission, elle, n'ayant pas cette compétence, était essentiellement centrée sur la concurrence, ça ne vous surprend pas, avec l'introduction de politiques de libéralisation dans le secteur de l'énergie, mais aussi sur l'efficacité énergétique, autre axe développé par l'Europe. Alors aujourd'hui, face à ça, et quand je dis aujourd'hui, c'est il y a encore quelques années, cinq ans, je dirais, il y a des alarmes qui se sont déclenchées. Les alarmes les plus connues, c'est le climat, je ne le développe pas, c'est la dépendance énergétique, puisque les premiers rapports autour de la dérive de 50 à 70%, ils datent finalement de 4 ans, à peu près, 4-5 ans. Et puis c'est la réalité concrète. On peut citer la question de l'Ukraine, qui est la plus connue, la plus médiatique, mais il y en a eu bien d'autres. Il y a eu des relations d'ailleurs avec les pays du Maghreb, notamment avec l'Algérie, où il y a eu des tensions extrêmement vives entre l'Europe et l'Algérie sur les conditions des contrats pétro-gaziers. Et puis il y en a d'autres, je ne vais pas les citer ici, mais le réel a parlé. Et le réel parlant, on a été amené, là aussi je vais rapidement, à ce que des premières orientations politiques fortes soient développées. L'efficacité énergétique, on a des directives qui ont été développées sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment en particulier, mais plus généralement c'est les 3x20, donc un axe efficacité énergétique, un axe réduction des émissions, l'enjeu climatique, un axe énergie renouvelable, contribution à l'enjeu climatique, bien évidemment. Alors face à ça, bien évidemment, et là on revient sur les territoires, l'Europe, se mobilisant là-dessus, a commencé à fédérer un certain nombre de financements. Le programme cadre, le 7e programme cadre dans le domaine de l'innovation et de la R&D a mis sur la table 53 milliards d'euros sur les 6 ans 2007-2013, dont 2,3 seulement sur l'énergie. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand on fait énergie plus environnement, 5 milliards, et encore plus intéressant, et je vais finir à mon troisième propos, puis on laissera la place au débat, c'est qu'on arrive à 14 à 17 milliards d'euros lorsqu'on fait énergie, environnement, NTIC et nouvelles techno. Chose qu'on a pu voir d'ailleurs dans le premier exposé, ce croisement entre ces différentes dimensions. Alors l'exemple...
Parce que je n'ai pas compris le dernier aspect des 17 milliards, c'est quoi ça?
Les 17 milliards, tu rassembles sur les 53 milliards, tu dis il y a 2,3 milliards spécifiquement énergie. Il y a, sur l'environnement, tu as aussi 2,7 milliards, donc ça te fait 5 milliards. Mmh. Et puis tu as encore 11 milliards complémentaires qui sont liés au NTIC et aux nouvelles technologies. Donc quand tu arrives avec un projet, avec des projets de développement, d'innovation qui croisent les quatre dimensions, hein, et on l'a vu dans les exemples proposés par Luc, hein, dans le voyage de Bordeaux, c'est-à-dire tu as une dimension énergie, tu as vu des dimensions climatiques, et puis tu as eu les nouvelles technologies, je pense aux batteries, etc., mais il y a plein d'autres. Hein. Eh bien, tu as des potentiels de financement contributif de l'Europe qui montent à 17 milliards. L'aspect énergie semble petit, les 2 milliards, mais aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, on ne peut plus raisonner seulement, et on va le voir sur le plan politique, on ne peut plus raisonner seulement énergie, il faut raisonner environnement, mais aujourd'hui, la grande révolution, c'est que dans l'énergie et l'environnement qui était resté sur des technologies relativement traditionnelles, à l'exception de la fusion, de ce que tu as pu montrer, aujourd'hui, il y a une vraie dynamique portée y compris par les industriels, dans le domaine des télécoms, des NTIC, et de toutes les nouvelles technologies, y compris les nanotechnologies, puis bien d'autres, que je ne vais pas citer ici. Donc l'idée, c'est bien de dire, attention, le mouvement s'opère, on part d'un diagnostic géopolitique, avec des mesures qui sont plus ou moins contraintes dans les jeux entre Union européenne et État, et puis on a quand même une mobilisation, je dirais, financière, d'aide, pour intervenir ensuite au niveau national, au niveau territorial, puisque c'est notre sujet. Alors, l'exemple, c'est les réseaux intelligents. Alors, excusez-moi de faire ce petit détour, mais c'est Christelle elle-même, et là, on ne s'était pas concerté, qui l'a cité dans la discussion de dimanche soir. Et il se trouve que, pour un certain nombre d'entre nous, ici, autour de cette table, c'est un de nos sujets d'actualité, mais c'est un des aspects, c'est pas le seul. Mais il est intéressant parce qu'il nous fait passer... d'une vision historique où on avait, finalement, dans les infrastructures énergétiques, une vision extrêmement centralisée, très hiérarchisée d'une certaine façon, qui est celle que je décris là, a une vision, donc c'est un réseau qui était globalement descendant, a une vision un peu nouvelle. Alors, cette vision nouvelle, vous voyez, autrefois, c'était la production vers la consommation des grands moyens de production qu'on connaît, hein, nucléaire, thermique à flamme, les grandes centrales, mais il y a des choses nouvelles qui apparaissent et qui, en plus, sont amplifiées à la fois par les évolutions technologiques et par les systèmes d'incitation politique et financière que par des tours que nous avons fait tout à l'heure. Alors on le voit sur les skates encadrés, c'est à la fois de la production telle que de la cogénération qui s'est développée depuis une dizaine d'années, c'est la production éolienne, c'est la production photovoltaïque, on a eu des illustrations tout à l'heure par Luc, et on a un système, comme vous le voyez dans les petites zones bleues, qui font qu'il y a de la production locale décentralisée, donc sur les territoires qui est en train d'être générée, dans des volumes relativement conséquents. C'est ce que évoquait tout à l'heure Luc avec la plus grande centrale photovoltaïque sur les territoires, sur la région de Bordeaux, du sud-ouest, pardon. Et puis vous avez aussi la MDE, autre aspect qui a été évoqué tout à l'heure dans l'exposé de Serge et de Christelle. Alors, un changement de paradigme, puisque là, le système électrique était dans une logique extrêmement centralisée et descendante, elle est en train de se tourner, hein, est en train d'être en spin-off là-dessus, sur une maille locale. Alors, et c'est concret. Tout ça, c'est pas simplement une vue de l'esprit. Aujourd'hui, donc je l'ai dit, dans les années 90, on avait des centrales de cogénération développées par des groupes industriels, mais l'éolien se développe. On a aujourd'hui, en 2008, même 2009, on a plus de 4 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 4 tranches nucléaires de production éolienne sur le territoire français. Et ce qui est en portefeuille, c'est de l'ordre de 10 gigawatts, c'est-à-dire un dixième de la production installée française.
C'est en crête.
Hein, c'est en production installée. Non, je ne vais pas rentrer dans les débats, parce que là, je pourrais en dire beaucoup en tant que du métier, n'est-ce pas, Olivier ? Ça pose des problèmes techniques. Hein. Alors, c'est clair que tout ça, ça pose déjà des problèmes techniques sur lesquels planchent des quantités d'acteurs. Je vais revenir.
Mais c'est des projets déjà autorisés, validés
Les 4 gigawatts. Il y a 4 gigawatts en 2009. Tu vois, il y a 3,4 en 2008.
Les 10, 20, là.
Les 10 sont en portefeuille. Ils sont autorisés. Ils ne sont pas tout à fait autorisés, mais on sait qu'ils sont en portefeuille. Tu vois, les conditions financières de développement de ces projets-là, sous réserve des problèmes, je dirais, alors territoriaux et d'acceptation et de débat public, hein, mais on a le potentiel, là, les 5 et 10 gigawatts sont là, et quand on regarde les courbes françaises, elles suivent à 5 à 10 ans près les courbes allemandes. Tout dépend du système d'incitation financier et fiscal que vous mettez, mais vous êtes dans des courbes avec un décalage avec les Allemands, mais on est dans les mêmes courbes. Arrivée en force du photovoltaïque, aujourd'hui, Livier se trouve confronté tous les mois à plus de 8000 demandes. Autant dire que c'est très difficile pour les équipes qui font ça, mais ça traduit le fait que sur les... Alors ça, c'est les particuliers, il y a des centrales photovoltaïques de grande taille. Il y en a sur les toits des agriculteurs, on a fait ça tout à l'heure à la pause, et puis il y en a maintenant chez les particuliers, qui arrivent en masse. Bon, ce qui arrive aussi... comme autre développement, c'est ce qu'on appelle le comptage intelligent. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le croisement entre les technologies classiques assez anciennes du comptage que connaissaient les énergéticiens et ce qu'apportent les nouvelles technologies de l'information et de traitement des données. Hier, on avait une discussion hier après-midi sur les volumes de données qui pourraient être échangés sur les compteurs intelligents. Les Italiens ont déjà développé ça, ont installé sur tout le pays. Et ils sont très en avance en Europe, eux. Ils ont installé des compteurs intelligents partout. Les Français arrivent, nous on va traiter 300 000 dans l'année prochaine à titre d'expérience. On verra, c'est d'ailleurs là-dessus que se développent des projets dans les territoires. Il y a 4-5 projets dans les territoires autour de ces comptages intelligents couplés avec le photovoltaïque. Bon, et puis les véhicules électriques, j'y vais pas, c'est aussi dans le tuyau si je puis me permettre l'expression. Alors, je passe les problèmes techniques, c'est pas l'objet de la discussion ici, il y en a. Mais le concept qui est derrière... Il est important parce que il consiste là aussi à raisonner de manière intelligente, c'était l'introduction d'Olivier, de manière intelligente à intégrer les actions des différents utilisateurs, mais au niveau local. C'est ça la grande différence, c'est qu'on va passer de systèmes où vous aurez de la production ou la maîtrise de l'énergie au niveau local, qu'il va falloir organiser, y compris jusque dans la maison. On a eu des discussions qui ont commencé hier, vous vous souvenez, autour de ces questions-là. Et c'est cette dialectique-là, cette dynamique-là, qui est en cours de réflexion et sur lequel il y a une forte mobilisation à la fois européenne et locale. Alors, des projets locaux, il y en a aujourd'hui. Donc, l'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a quelques mois. Et en fait, tous les acteurs, de très nombreux acteurs de toute taille, ont répondu notamment Jacques. Jacques n'est pas là ce matin, mais il va nous rejoindre. Jacques avec son...
Si, si, il est là.
Bon, ben, Jacques, il a répondu. Il a répondu dans des organisations qui, avec des collectivités, des industriels de toutes les tailles répondent. L'ARD, les universités sont mobilisées et rentrent dans des sujets de ce type-là où il y a des financements publics, cette fois nationaux. L'Europe développe, dans les fonds que j'ai évoqués tout à l'heure, une dynamique autour de ce type de projet. Obama a fait des déclarations publiques sur le sujet, puisqu'il a, et pas seulement des déclarations, puisqu'ils mettent sur la table 8 milliards de dollars en fonds publics et privés. Bon, ils mettent 3 milliards de dollars, hein, 3,4 milliards de dollars, sur une centaine de projets innovants de ce type-là aux États-Unis. Ils avancent relativement bien. Alors, il y a des gros il y a des petits opérateurs, mais il y a aussi des gros, hein, puisque GE, vous trouvez à la fois GE, hein, comme Cisco, hein, IBM. Donc, c'est ce croisement technologique qui est en train de s'opérer, et dans lequel, effectivement, vous allez avoir le croisement qui va interroger les territoires, parce qu'on voit bien qu'on descend dans les mailles. On est dans cette maille-là. Hein. Voilà. Et donc, en guise de conclusion...
L'enjeu, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, et si je me souviens, je m'en excuse. Ouais. L'objectif, c'est quoi? C'est l'économie d'énergie?
Alors, l'enjeu, c'est tu as à droite, si tu veux, tout ce que tu peux avoir en maîtrise de l'énergie dans les maisons. Oui. Et à gauche, tu as... alors là, c'est vu d'un électricien, parce que c'est la coordination technique et économique. Et tu vois de la production éolienne, tu vois de la production photovoltaïque, et tu vois la production centralisée. Et si tu veux, c'est cette rencontre-là qui contribue aux trois dimensions des 3x20, maîtrise, efficacité énergétique, hein, énergie renouvelable, et puis baisse des émissions grâce, effectivement, à la baisse de la consommation, et puis à une production d'énergie renouvelable. Tu vois ? Et c'est ce croisement-là, si tu veux, c'est un de ces leviers sur lesquels il y a un travail de fond. Là, c'est la gestion de réseau, mais ça va plus loin, c'est systémique. On appelle ça les smart grids, mais oubliez le mot grid. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'acteurs qui appellent ça les smart systems. C'est aujourd'hui, c'est la vision du système énergétique de façon intelligente, coordonnée. C'est tous les acteurs. Et ça complique, évidemment, à la fois sur le plan technique, mais sur le plan économique. C'est pour ça que je vais poser quelques questions à la fin. Hein. Quelles sont les problématiques pour les territoires? Alors, tiens, c'est pas dans le bon ordre, désolé. Voilà. D'abord, stratégique et financière. Quelle stratégie énergétique locale? Quel projet, quel partenaire? Puisque là, il y a matière, il y a des financements publics à différentes mailles, vous l'avez compris, que ce soit national ou européen. Quel type de projet? Quels opérateurs? Est-ce que vous travaillez des petites, des grosses sociétés, mixées avec des universités? Est-ce que vous faites effectivement sur la base de clusters existants ou vous créez de nouvelles dynamiques? Il y a un certain nombre de réflexions de ce type-là. Et puis, quelle modalité de financement, puisque vous croisez des financements publics et privés. Alors derrière, ça pose des quantités de nouveaux problèmes, là qui est plutôt du côté des acteurs dans le système énergétique et climatique. Quels sont les modèles économiques, hein, quelles règles du jeu, comment faut-il modifier la régulation de ce secteur-là? À mon avis, ça va rebouger, hein, parce que ça pose des quantités de questions quand on veut voir l'efficacité économique de ces différentes fonctions. Aujourd'hui, y compris les universitaires travaillent planche dessus, parce qu'on ne sait pas bien où trouver, et c'est pour ça qu'il y a des expériences concrètes sur les terrains, c'est pour ça que c'est un vrai appel au territoire. Hein. On fait ce qu'on appelle des démonstrateurs, ça a été cité dans les exposés précédents, dans lesquels les collectivités sont impliquées aussi, pour essayer de voir comment, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et quels sont les acteurs qui peuvent être les plus dynamiques, et comment on leur donne des incitations économiques pour qu'ils puissent tirer toutes ces technologies vers les enjeux que tu me faisais résumer à juste titre tout à l'heure.
C'est volontaire le mode féminin?
Oui, non. Là, je me suis trahi. Il n'y a pas eu là. Je t'en connais bien là. J'avais mis des bancs. Alors, et enfin, les problèmes qui ont été évoqués hier et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'actualité, c'est quel rôle des citoyens, consommateurs, usagers? On avait mis quelle acceptabilité? Il y a eu un grand débat sur le mot acceptabilité, je crois qu'effectivement, il était très riche hier, c'est une vraie question. Parce que derrière, quand on tire la ficelle, il y a la ficelle des modèles économiques. Il y a surtout les ficelles aussi des modèles de consommation et d'action, et citoyennes. Et là, il y a des réflexions. Doit-on être incitatif? Doit-on être contraignant? Peut-on être volontaire? Quel segment de consommateur peut aller? Il y a des problèmes politiques et éthiques qui sont posés. J'en donne qu'un exemple, sur lequel d'ailleurs les Pays-Bas ont tranché récemment, parce qu'ils sont avancés aussi, chaque pays européen aussi, essaye aussi d'avancer sur ces questions-là. Par exemple, c'est le traitement des données de consommation énergétique. On sait aujourd'hui traiter, en laboratoire vos données énergétiques, traduire vos usages, et donc savoir quand vous vous douchez ou quand vous allez faire cuire votre poulet, hein, à peu de choses près. Bon, ça, ça pose des problèmes sur la vie privée et sur le contrôle. Et là, il y a eu, il y a eu un débat là-dessus, et il y a eu des premiers arbitrages, évidemment, qui limitent les conditions d'utilisation de ces données-là par des opérateurs externes, hein, puisque c'est l'atteinte à la vie privée. Bon, je ferme le rôle, et puis finalement, quel rôle des collectivités dans la conduite du changement, mais pas seulement dans la conduite du changement, dans les opérations industrielles et territoriales de développement, puisque, vous voyez qu'on est ici, on est en train de glisser et de s'infléchir vers, je dirais, des enjeux locaux. Je m'arrête là, si vous voulez.
Oui, je prends mon rôle de distributeur de parole. Juste avant de te donner la parole, vous avez prévu une pause. Enfin, je vois sur le programme qu'il y a une pause qui est prévue à 11h, on l'a fait. Hein, c'est très bien, c'est très bien. Bon, alors, quelques questions avant la pause, ou quelques remarques avant la pause.
J'avais une question pour Jean-François, mais une question un tout petit peu technique pour préciser ce qu'il a dit sur les smart grids. Je la pose maintenant, et non pas dans le débat ultérieur, parce que justement elle est de cette nature. Tu as cité ce qu'ont limité les Hollandais, là, les outils de suivi des fluides, le comptage. Je n'ai pas encore très bien compris comment s'articuler la smart grid qui est au niveau du réseau électrique et qui permet, grosso modo, de bien gérer l'ensemble des productions et consommations, si j'ai bien compris, des uns et des autres, et d'harmoniser tout ça, et d'optimiser tout ça. Et puis, ces outils qui se développent, un peu innovants, mais qui commencent à être connus, qui se développent maintenant massivement, personnellement, pour le ministère de la Défense, où je suis, on est en train de mettre en place un sous-comptage avec un investissement sur le plan de relance qui est monstrueux, et avec dans l'idée de se doter d'un outil de suivi des fluides de toutes les emprises du ministère, qui permettra à terme d'avoir une visibilité sur ce qu'on consomme réellement, emprise par emprise, et surtout bâtiment par bâtiment, fonction par fonction. Et là, on est réellement dans une gestion qui va vers l'efficacité énergétique, une meilleure gestion du patrimoine. Ma question est double. D'une part, comment les deux systèmes s'articulent et se complètent ou techniquement sont compatibles. Et l'autre question est plutôt sur la maîtrise de l'outil. Est-ce qu'il n'y aura pas une peur, parce que je reconnais les réticences en interne chez moi, est-ce qu'il n'y aura pas une peur d'un certain nombre de grands usagers si cet outil est géré par le fournisseur d'électricité, finalement, ils perdent le contrôle, ils perdent complètement la main sur la gestion de son énergie.
Ta première question, elle est bien sur l'articulation à la fois gestion du réseau, d'une part, et comptage. On peut séparer les deux problèmes d'une certaine façon. On va dire que pour les gestionnaires de réseau, pour les énergéticiens, il y a à gérer un réseau dans lequel apparaît une production fortement décentralisée qui pose des quantités de problèmes techniques, mais vraiment des quantités de problèmes techniques sur lesquels il y a des quantités d'équipes, et pas seulement chez les énergéticiens, dans les universités, qui travaillent pour arriver à intégrer une production, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, c'est une production qui, certes, vous allez avoir 10 à 20 gigawatts installés, mais en gros, c'est un facteur d'efficacité de production, hein, que ce soit par le soleil ou par le vent, qui est bien moindre que des centrales classiques. Ça pose cette intermittence et cette imprévisibilité de la production pose des quantités de problèmes aux techniciens. Donc tu as un problème dans la gestion, l'insertion de cette production dans des réseaux qui étaient globalement conçus comme descendants. Tu as des choses qui s'injectent un peu partout. Je fais ça. Hein. Ça pose des quantités de problèmes. C'est un débat en soi essentiellement technique ou technico-économique. Il y a un deuxième aspect qui est effectivement la maîtrise. Alors ça contribue à la réduction maîtrise de l'effet de serre, hein, réduction de l'effet de serre et donc développement des énergies renouvelables. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est maîtrise de la demande d'énergie. Je fais simple, hein, là aussi je suis un peu caricatural, mais qui est finalement sur tous les consommateurs, comment leur donner le moyen, comment peuvent-ils avoir le moyen, comment les aider, voire les piloter s'ils te délèguent. La maîtrise, c'est réduire leur consommation d'énergie. Bon. Et là, tu passes par des mécanismes articulés entre des compteurs intelligents, c'est-à-dire dotés, l'intelligence de la NTIC, qui te permet, soit du côté consommateur, de maîtriser toi-même, parce que tu vois que tu peux jouer un petit peu, si tu es très motivé. Notre impression, c'est qu'un certain nombre de consommateurs seront motivés, mais ça sera un segment seulement. Puis il y en a d'autres qui seront moins motivés et qu'il faudra aider ou avec qui il faudra contracter pour leur faire des propositions, etc. Bon. Donc c'est sur ce type de travaux, tu vois, c'est une deuxième facette. Alors sur la question après, la deuxième question, je pense que dans une administration qui veut gérer efficacement son économie d'énergie, je pense que tu peux gagner beaucoup avec ces systèmes-là et tu tombes pas sur le problème que j'évoquais par contre de propriété privée. Enfin, tout au moins de la vie atteinte à la vie privée que tu vas trouver chez les consommateurs particuliers, hein, qui est là un autre, qui est un sujet sur lequel d'ailleurs il va falloir que les sociologues, les juristes se penchent parce que il faut qu'on donne des conditions dans lesquelles on offre des conditions qui respectent les règles du jeu. Alors après il y a des débats qu'on a évoqués hier, hein, c'est comment le comportement peut être incité, développé, contraint à aller vers ça quand on est dans des scénarios gris voire noir. Alors là, il y a d'autres questions qui se posent et qui sont des problèmes politiques. Très clairement, plus qu'éthique, c'est de la politique.
Albi ?
J'ai l'impression qu'en France, on est assez en retard sur les États-Unis, puisqu'il y a 10 ans, on parlait déjà de smart grids en Californie, où ils commençaient à le développer à l'échelle d'agglomération et autres pour les tester.
Oui, mais c'est meilleur.
Et quand je regarde les résultats du premier appel à projet sur les premiers appels à projets sur les pôles de compétitivité en France, j'avais en tête qu'il n'y en avait qu'un qui, de façon tout à fait accessoire, c'était le pôle de Tours, S2E, je ne sais plus quoi, là, qui s'en occupait, qui avait développé quelque chose. Est-ce que dans le nouvel appel à projet sur les écothèques, il y a des choses qui vont sortir?
Je ne peux pas te répondre sur le dernier point précisément. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a tout un ensemble. Il y a une mobilisation. Alors, il y a sans doute des retards, encore que par rapport aux États-Unis, encore que ça va dépendre des États. Tu as raison sur lequel je pense Californie. Mais là, le mouvement, l'accélération proposée par Obama, notamment voyant ça comme un des axes de relève, ça rejoint les questions sur la relance, hein, le grand emprunt. Il le voit comme un des axes, justement, de redynamisation, un axe de redynamisation de l'économie américaine autour de nouvelles technologies et énergie. Hein. Et d'ailleurs, il gère plusieurs problèmes. Hein. C'est le problème énergétique américain qui est quand même sur la table depuis longtemps. Et enfin, là, c'est un vrai développement, on ne peut pas en parler là, mais c'est vraiment un très, très gros problème chez eux, avec des débats très compliqués entre le Congrès, le Sénat, et que ce soit les républicains ou les démocrates. Et puis, c'est effectivement le développement, profiter de tout l'avantage qu'ils ont en termes de... Ils ont des opérateurs dans le domaine de la NTIC qui ont fait des avancées, comme tu le dis, et sur lesquels ils peuvent effectivement forger un outil, y compris d'exportation, qui peuvent être performants. Alors, par contre, ce que je vois, moi, c'est en Europe, en tout cas, là, une très, très forte mobilisation que je n'avais pas complètement perçue il y a encore quelques mois, hein, c'est en faisant quelques tours à Bruxelles et puis dans quelques villes européennes. Je vois qu'à la fois les institutions européennes sont très mobilisées sur cette question-là. Donc il y a une espèce d'accélération du temps. Alors, là aussi, hein, il y a eu un petit intermédiaire. En guise de conclusion provisoire, il y avait une petite fleur avec les éoliennes et tout. Le monde est pas rose. Ça ne va pas non plus se faire en 5 minutes. Ça va peut-être accoucher dans certains endroits ou sur certaines questions de souris. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment un mouvement, et ce mouvement s'accélère. C'est en train de s'accélérer en Europe. Et en France, je te dis, alors là, vraiment, l'ADEME, hier soir, on m'a annoncé que l'ADEME, qui avait donc fait cet appel à manifestation d'intérêt autour des questions Smart Grids, va augmenter encore le financement. Les distributeurs européens viennent de déclencher, il y a 7 des grands distributeurs européens, dont les Français, viennent de déclencher une très grosse opération, une très grosse initiative industrielle en lien avec la Commission européenne autour des Smart Grids. Donc il y a une accélération, clairement. Bon, faudra voir après, hein, mais puis on voit dans les universités, ça bouge, ça s'est mis à bouger beaucoup. Je pense, Olivier, tu peux témoigner. Hein.
Non, si, Grenoble en particulier, hein, est très en pointe, comme tu parlais de Grenoble tout à l'heure, très en pointe sur ce sujet.
Deux questions, deux remarques et puis une petite pause. Vas-y, Vincent.
Bon, je vais peut-être m'éloigner un tout petit peu du sujet, mais il me semble que le problème de la smart grid avec le consommateur, c'est pas seulement le problème du poulet et de la douche, c'est le problème plus général de...
Le poulet, oui, c'est le contrôle de ta vie privée par ta consommation énergétique.
Le repérage de tes usages.
Alban, la caractérisation dans le débat d'experts, c'est les capacités qu'offre ce type de système sont absolument phénoménales. À la limite, toutes les secondes, on est en capacité à dire à tel endroit, il y a telle consommation.
Oui, oui.
Et donc après, on est en train de... Le débat, c'est de dire sur quel pas... On autorise les acteurs du système à repérer. Est-ce que c'est un pas de 1 minute, de 10 minutes, d'une demi-heure, d'une heure? Donc on est autour de ce débat-là. Hein.
D'accord. Mais je voudrais insister sur... insister. Il me semble que c'est finalement un problème qu'on voit surgir dans pratiquement toutes les activités, puisqu'on parle de routes intelligentes. De la même manière, les voitures vont être surveillées. C'est un problème qu'on a vu arriver chez les agriculteurs il y a déjà 5-6 ans. Puisque les cuvalets sont bourrés de capteurs, les tracteurs n'en parlons pas.
C'est les agriculteurs qui sont intelligents, c'est les tracteurs.
Ça pose un problème difficile, qui est celui, sans parler des échanges de données informatisées entre les coopératives, les centres de gestion, etc. Donc ça, et on a des petits entrepreneurs qui sont traversés par des flux de données qui produisent pour une large part, mais par rapport auxquels ils sont complètement passifs. Alors, moi je trouve que ça, si on l'élargit aux smart grids, aux bagnoles intelligentes, etc., on se trouve devant une situation où, de fait, je crois que on a un problème de démocratie. Je suis pas sûr que la caricature des juristes ou des sociologues suffit pour pour qu'on mette dans les enjeux vraiment le citoyen. Je suis pas sûr que cette nouvelle caricature sera à la hauteur des enjeux de démocratie. En même temps, on l'a bien vu sur les agriculteurs, dès que l'agriculteur peut rendre son micro à celui qui va faire pour lui et qui va le décharger d'une saisie de données, d'une interprétation des données dont les enjeux lui échappent, il va le faire. Voilà, donc peut-être qu'il faut de nouveaux types d'associations de citoyens pour, malgré tout, que chacun de nous ne soit pas complètement absent de cette observation permanente.
Merci Alain, et puis Luc pour conclure.
J'ai une question très pratique, hein, c'est que je m'interroge sur l'action des collectivités par rapport à ce sujet. Et moi, je ne pouvais pas être là hier matin, mais je pense que dans la discussion des travaux du groupe 1, on a essayé de montrer le problème un peu de cohérence de l'action des collectivités par rapport à l'ensemble des champs qui touchent à la question énergie-climat. Et aujourd'hui, les acteurs qui sont compétents en termes d'élus locaux, enfin, je pense que les collègues élus qui sont là pour le compléter mes propos, mais c'est plutôt les syndicats départementaux d'électrification. Et moi, je note, c'est un exemple concret, que les 3 syndicats d'électrification des 3 départements qui constituent ma région sont des acteurs avec qui nous n'avons strictement aucun échange au niveau régional. Les agglos n'ont strictement, les agglos ou les pays, hein, c'est-à-dire les élus locaux, communautés de communes, etc., n'ont pratiquement aucun échange. Et je crois même que les départements, parce que j'ai travaillé 4 ans dans mon département, j'étais chargé du service de l'environnement, nous n'avions aucun contact avec le syndicat départemental d'électricité. Donc, quelque part, je me demande, alors, c'est nul chez vous peut-être, mais je m'interroge un peu sur la façon dont on peut, à l'échelle d'une agglo ou d'une aire urbaine comme celle de Caen, pour reprendre l'exemple de Caen Métropole et du SCOT dont je parlais hier, je sais que par exemple dans l'élaboration du plan climat et dans l'élaboration du SCOT, de cette aire urbaine, il n'y a a priori eu strictement aucun contact avec le syndicat départemental d'électrification, et qu'en tout cas la question du réseau intelligent, je pense qu'elle n'est pas du tout abordée. Alors, tout simplement, peut-être parce que c'est des gens qui ne se parlent pas ou qui, à un moment donné, ne voient pas en quoi il faudrait qu'ils discutent et qu'ils avancent, et en quoi la question, elle est globale, consommation, distribution, gestion du réseau, quoi. Enfin, donc, en fait, ma question très concrète, c'est est-ce que vous avez des exemples de territoires significatifs, soit d'aglo, soit de à l'échelle d'une aire urbaine, enfin, qui investissent cette question du réseau et qui, du coup, comment se traite la question des compétences entre des acteurs qui sont quand même assez différents. Les syndicats départementaux, a priori, sont très autonomes par rapport à ça.
Jacques est rentré ou pas ? Il est revenu ? Ouais, tu peux peut-être donner un éclairage. Pendant que tu étais absent, moi, j'évoquais le fait que vous aviez répondu à l'AMI de l'ADEME, et avec aussi des partenaires de l'activité.
Ce que je peux en dire, c'est assez compliqué. De ce côté-là, j'ai envie de mettre en évidence une situation de monopole qui a changé. On a eu un séminaire de 2 jours là-dessus qui a quand même un gros impact encore maintenant sur l'architecture globale de la distribution d'électricité en France. On travaille sur ces questions-là, donc on travaille à l'échelle. Nous, on a quelques opérations de MDE, donc de maîtrise de la demande d'électricité, en l'occurrence en Bretagne, parce qu'on refusait la centrale nucléaire, donc sur le pays de Saint-Brieuc. Et donc on déploie là, dans 2 mois, 2000 boîtiers, donc mélangés en fonction des différents fournisseurs de boîtiers de Smart Grid. Donc il y a Enedia, qui est une filiale EDF, Schneider et Voltalis. En fait, la grosse question en ce moment, c'est de savoir comment on peut rentabiliser l'économie d'électricité. Donc en fait, le véritable intérêt en ce moment, c'est ça. Maintenant, comment les gens discutent, on travaille avec le syndicat d'électricité sur cette zone-là. On ne les laisse pas tout seuls, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, la vraie difficulté là-dedans pour donner un coup de main, c'est d'avoir l'information. Et l'information, elle est stratégique et elle est un peu secrète, pour être très clair, en termes de courbe de charge, ainsi de suite, pour faire les analyses. Chacun a son pré carré et on n'arrive pas à partager en fait. Même sur les boîtiers, la vraie guerre, pas plus tard que lundi, j'étais en ligne avec le directeur général de Voltalis. On lui demandait de récupérer les informations sur les boîtiers qui étaient mis en place, les courbes de charge et la consommation, d'ailleurs anonymisé, il dit on s'intéresse pas à la façon dont les gens consomment. Et en fait, il nous a répondu que c'était toujours 0 avant la virgule pour récupérer ces informations-là. Donc ils ont tous l'intention de l'utiliser et de jouer à Big Brother avec ça. Donc, pour donner un peu le schéma, on a du mal à sortir un peu de ce créneau-là. Par contre, ce qui est clair, c'est que ce marché-là est en train de s'étendre, que Bruxelles est en train de s'en occuper. Il y a un particularisme français quand même, qui est le coût d'électricité en France, qui est quand même moins cher d'Europe. Et je ne suis pas sûr que, en termes de production, le producteur d'électricité principal français ait intérêt à trop bouger là-dessus. Il va attendre tout simplement que les Allemands et le reste de l'Europe nous demandent de remonter le coût d'électricité pour pouvoir rentabiliser un peu plus son réseau. Donc il n'y a pas trop d'intérêt pour aller jouer, encore une fois, problème offre-demande. On s'occupe encore de l'offre et on ne prend pas en compte assez la demande. Donc Smart Grid va peut-être aider à ça.
Non, simplement, vu de moi, je n'ai pas tout à fait le même avis, tu peux t'en douter. Parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est incontournable pour les énergéticiens. Alors, ça émerge plus ou moins vite selon les conditions économiques. Et là, je rejoins Jacques. Tu as des conditions qui favorisent. Évidemment, l'électricité est vachement chère. Tu valorises plus facilement certains types d'opérations. c'est clair, hein, mais tu peux pas avoir l'avantage et les inconvénients, l'avantage d'avoir une électricité peu chère aujourd'hui, mais aussi l'inconvénient que tu développeras moins facilement des opérations de ce type-là. Mais pour répondre plus précisément à ta question, là, à la fois l'exemple de Jacques, et puis nous, dans les opérations qui sont montées avec, pour les démonstrateurs de l'ADEME, il y a des collectivités qui sont impliquées. Alors, c'est des chaussées, il y a, je ne sais pas, nous, on est dans 4-5. Tu ne peux pas aujourd'hui faire des démonstrateurs autour des startups, puisqu'on se focalisait là-dessus, hein, mais il y a plein d'autres sujets hein, d'innovation, autour de l'énergie en tout cas, mais tu ne peux pas le faire sans les territoires. Ça, ce n'est pas possible. Alors après, tu as des gens plus ou moins motivés, plus ou moins affûtés. Bon, ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu touches, là, par exemple, tu vois du côté de Nice, tu travailles sur des quartiers solaires, c'est évident que tu discutes avec les élus. Quoi. C'est pas possible de travailler. Et c'est ça, si tu veux, c'est, je pense que cette prise de conscience va venir, d'autant plus que quand on aura les outils technologiques, et a fortiori s'ils sont rentables économiquement, alors là, ça va se mettre à bouger, quoi, fortement. Là, il y a encore une petite incertitude, Jacques, effectivement, sur, et là je suis d'accord avec Jacques aussi, sur la rentabilité économique. Donc les gens sont encore assez prudents. Mais sur le plan technologique, on voit qu'il y a des potentiels.
Juste pour rajouter, pour moduler le propos, ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait hier quant on va dire à la tarification, c'est qu'en fait, il y a une grosse partie, c'est comme pour le transport ou ce qu'on évoquait hier sur le plan climat, on s'aperçoit que dans le cadre des GES ou du changement climatique, comme vous voulez, ou en tout cas de la donnée économique, finalement, c'est en maîtrisant des choses simples, donc type le comportement routier, rouler moins vite, ainsi de suite, pour émettre moins, vous allez avoir la même chose sur la consommation d'énergie, et que finalement, les marges de manœuvre essentielles sont plutôt sur une logique tarifaire, involontaire. Enfin, ça, c'est notre point de vue. Hein. Je pense que Jean-François n'est pas forcément d'accord. Mais il y a une grosse partie là-dessus, c'est du tarif propre de l'énergie et de l'électricité pour pousser les gens, en fait, à faire de l'économie. Plus que, encore une fois, d'essayer de gérer les effacements de pointe ou des choses de ce type-là, qui, finalement, c'est vrai, coûtent très cher en investissement. Et on peut y arriver sans avoir besoin d'investir comme ça. Donc on peut rentrer dans, on va dire, dans une espèce d'économie du kilowattheure économisé. Et ça doit pouvoir fonctionner. Tu es
d'accord avec toi ?
Bon. C'est bien. Merci. Luc, deux mots et on fait une pause.
Moi, je voulais poursuivre le commentaire de Vincent sur la question de l'information. J'assistais la semaine dernière à une table ronde à laquelle participait Eric Fotorino, et qui mentionnait le fait que, justement, quelquefois, on ne sait pas qu'on sait. Et toute la question de l'information, c'est ce qu'on en fait. Et je dirais qu'en matière de défense, l'histoire du 11 septembre illustre aussi comment des quantités d'informations qu'on ne sait pas traiter peut aboutir à l'ignorance d'une certaine manière. Et moi, je fais un parallèle avec les travaux de recherche de Dominique Volton, qui a écrit un petit bouquin aux éditions du CNRS, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Informer n'est pas communiquer ». Et en fait, il nous montre que plus les systèmes d'information se développent, plus ils peuvent mettre en péril la question de la communication. Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que la communication, c'est quelque chose qui a été relativement confisqué par la mercatique, pour prendre un terme français, même si c'était à la mode de parler dans la langue de Shakespeare. Je ne pas de parler de marketing, mais dans la mercatique, on parle de la com, on s'imagine que la com, c'est forcément la publicité, un certain nombre de choses. La com, c'est aussi la théorie de la communication, la théorie des systèmes, et dans la théorie des systèmes, l'information, c'est un élément dans l'input, mais ensuite, la complexité du système, elle est d'une autre nature. Et je crois que c'est Armand Matelard qui racontait que dans les réseaux mondiaux de communication, ils se sont souvent constitués à partir des gens qui étaient les constructeurs des tuyaux. Et que du coup, on n'a pas de réflexion globale sur le système. Et je crois que la réflexion globale sur le système, et ça va faire la transition avec la table ronde, c'est une question éminemment politique. Parce que dans la politique, dans la question du vivre ensemble, dans la question de la construction, c'est comment on communique à partir d'une société où sa complexité procède aussi par la quantité d'informations qui est disponible, et comment on fait en sorte que cette quantité d'informations devient un élément d'une intelligence collective. Ça, c'est une communication qui appelle pas que l'intelligence des réseaux, mais l'intelligence qui est avant tout une qualité humaine, et faire en sorte qu'il y ait l'intelligence politique qui relaie l'information. Et je crois que ça, c'est un vrai défi pour toute la question du développement technologique, etc. Et effectivement, il y a forcément une dimension éthique dans la question de la communication entre des êtres humains qui ne sont pas des machines.
En tout cas, vous avez donné une belle démonstration d'intelligence collective. Oui. Voilà. J'espère que chacun...
Sans papier, hein.
Hein, j'espère que chacun a noté les références bibliographiques. Allez, un quart d'heure de pause. Ah bah c'est super sympa. Hein. Ouais. Puis c'est de vachement bonne qualité. Hier, si tu veux, les restitutions étaient intéressantes, mais c'était pas de même niveau. Hein. C'était pas aussi abouti, si tu veux. C'était pas aussi abouti. Ils ont la meilleure note.
Bon, mais c'est bien.
Non, mais ces deux jours sont très intéressants.
On pourrait se prendre un petit moment.